VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump a prononcé aujourd'hui un discours très attendu à la grande conférence annuelle des conservateurs du CPAC à National Harbor dans la banlieue de Washington. Une allocution qui devait présenter un bilan de son premier mois à la présidence, selon beaucoup d'observateurs. Mais le chef de l'exécutif américain a commencé tout d'abord par une critique des médias. Il les a accusés de propager de fausses nouvelles, de n'avoir jamais reconnu sa bonne performance pendant la campagne présidentielle de l'année dernière et surtout de minimiser sa victoire aux élections. Puis, Donald Trump a parlé essentiellement de sa philosophie politique « America first », l'Amérique tout d'abord.
The core conviction of our movement is that we are a nation that put and will put its own citizens first.
La conviction fondamentale de notre mouvement est que nous sommes une nation qui place et placera ses propres ressortissants en première position, a déclaré le président Donald Trump. Le chef de l'exécutif s'est ensuite engagé à tenir ses promesses de campagne électorale, notamment la construction d'un mur à la frontière du Mexique pour bloquer l'immigration illégale, les efforts soutenus pour relancer la production industrielle américaine et éliminer les traités de commerce qui défavorisent les États-Unis et la réduction de l'aide étrangère. Conférence des donateurs à Oslo en Norvège pour aider les victimes du groupe djihadiste Boko Haram au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Les participants, ONG, institutions et pays donateurs, ont promis 672 millions de dollars sur 3 ans pour porter secours aux populations en détresse. Claire Morin-Gibourg.
Le montant promis est bien en deçà des besoins de la région. Selon les Nations Unies, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad ont besoin de 1,5 milliard de dollars d'aide d'urgence rien que cette année. Les États-Unis n'ont pas annoncé le montant de leur contribution. Le président Donald Trump a dit vouloir réduire son aide internationale, mais sans précision. Sur les 672 millions de dollars promis à Oslo, 457 millions le sont au titre de l'année 2017. Stephen O'Brien, le sous-secrétaire général de l'ONU, reste confiant quant à l'objectif annuel, car le montant a été levé en une seule matinée. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyema, précise qu'avec cette somme, seule la partie émergée des besoins pourra être traitée. Il a toutefois déclaré que son pays était immensément reconnaissant.
En Afrique du Sud, les violences xénophobes s'intensifient à Pretoria, la capitale. La police sud-africaine est intervenue ce vendredi pour prévenir des affrontements entre riverains et immigrés lors d'une manifestation contre les étrangers. La tension est à son comble, nous dit Salwa Jafari.
Près d'un millier de manifestants en colère dans les rues de Pretoria. Ils accusent les immigrés de leur voler leur gagne-pain et d'encourager la débauche et la criminalité.
Ils sont partout. Qu'en est-il de l'avenir de nos enfants?
La police est intervenue de manière musclée pour éviter une bataille rangée. Depuis 2 semaines, des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers, notamment des Nigérians et soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou de trafic de drogue, ont été brûlés par des habitants en colère à Johannesburg et dans la capitale. Ces attaques qui n'ont pas fait de victimes sont fréquentes en Afrique du Sud, nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté qui affecte la population noire. Le Nigeria a convoqué jeudi l'ambassadeur sud-africain pour lui faire part de sa profonde préoccupation et exiger des mesures de protection de vie et des biens des étrangers. Le président Jacob Zuma est intervenu vendredi pour condamner les violences et appeler au calme.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, les premières patrouilles mixtes formées de soldats maliens accompagnés par des combattants de groupes pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion sont opérationnelles à Gao, la grande métropole du Nord. Elles ont officiellement commencé leurs activités hier, un nouveau pas dans l'application de l'accord de paix entre Bamako et les groupes armés. John Lindon.
La cérémonie a eu lieu au siège du mécanisme opérationnel de coordination en périphérie de Gao. d'anciens frères ennemis, c'est-à-dire des soldats de l'armée régulière, des combattants de la plateforme et d'ex-rebelles Touareg de la coordination des mouvements de l'Azawad vont mener des patrouilles mixtes. Elles vont d'abord commencer à Gao avant de s'étendre dans tout le nord malien. À terme, 600 hommes, 200 de chaque camp, devraient y participer. Les autorités maliennes, la MINUSMA et l'opération française Barkhane, dédiée à la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, étaient représentées à la cérémonie. Ces patrouilles mixtes sont une disposition de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 par Bamako, la plateforme et la CMA. Leur lancement intervient quelques 5 semaines après un attentat suicide contre le même camp près de Gao. Cette attaque, revendiquée par le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, avait fait près de 80 morts.
Afrique de l'Ouest toujours, le FESPACO, la grande messe du cinéma africain, commence demain dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. Quelques 164 films sont en compétition, dont 20 longs-métrages, pour la récompense suprême, l'étalon d'or de Yenenga. Une cinquantaine de films seront aussi présentés hors compétition. Pendant 10 jours donc, jusqu'au 4 mars, ce sera la fête avec plus de 100 000 spectateurs attendus. Au micro de Jean-Roger Bion, ambiance à Ouagadougou à la veille de la fête du cinéma africain avec l'envoyé spécial de VOA Afrique, Roger Muntu.
Nous sommes arrivés hier et déjà on sentait l'ambiance depuis l'aéroport de Ouagadougou. Déjà on voyait beaucoup de gens qui venaient de partout pour participer déjà aux pré-festivités déjà du festival. Et on a trouvé dans la capitale l'ambiance, les fêtes, les projections des films et les restaurants, les hôtels qui sont aussi tous pleins. C'est ça un peu l'ambiance qu'on a trouvé à Ouagadougou.
Alors on craignait pour la sécurité. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pris pour protéger donc le FESPACO et ses festivaliers quand on sait que le Burkina Faso était la cible d'attaques djihadistes ces derniers temps?
La tuerie de Bamako, le putsch manqué de Ouagadougou, les enlèvements du Sahel, la guerre au Mali, la situation au nord du Niger, Acmi, la Côte d'Ivoire. Donc tous ces événements des pays voisins aussi du Burkina ont pesé très lourd. Alors dans d'abord l'économie touristique de Burkina, on peut aussi d'ailleurs ajouter l'attentat à Ouagadougou en janvier 2020. Et tout cela a poussé alors au gouvernement du Burkina Faso à prendre des mesures draconiennes pour assurer la sécurité. Et là, je peux vous rassurer que chaque 2-3 blocs, on doit nous arrêter, on doit fouiller la voiture, on doit regarder qui nous sommes. Et ce sont des soldats qui sont armés partout dans la ville.
Demain, la fête peut commencer, la fête du cinéma. Brièvement, l'agenda de ce début de fête demain samedi, Roger Muntu.
Alors l'agenda, j'ai parlé ce matin avec l'artiste Alpha Blondie qui va sûrement nous trouver un petit moment pour qu'on puisse avoir une interview avec lui. Il est dans la ville, tout le monde est content que Alpha Blondie soit ici et pour bien démarrer ce festival.
Roger Muntu, envoyé spécial de VOA Afrique au FESPACO de Ouagadougou, joint par Jean-Roger Bion. Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie. 2 attentats suicides ce vendredi près du village syrien d'Al-Bab ont fait plusieurs dizaines de morts. Ces attaques interviennent un jour après la prise de cette localité stratégique par les forces turques et leurs alliés de la rébellion syrienne. Gabi Dorsil.
Les attaques n'étaient pas simultanées, mais ont pris pour cible le même endroit. Les autorités turques et les médias locaux font état de 65 morts, dont plusieurs civils, des combattants rebelles et au moins 2 soldats turcs. La première explosion a touché un poste de sécurité de l'opposition dans le village de Soussian, où les habitants s'étaient rassemblés pour obtenir un permis de retour à Al-Bab. Les troupes turques et leurs alliés avaient repris Al-Bab la veille aux combattants du groupe État islamique. La seconde attaque a eu lieu alors que les riverains et équipes de secours récupéraient les corps des victimes. Al-Bab tombé, les djihadistes auront recours à de telles attaques, prédisent les observateurs, pour maintenir une présence face aux forces turques et rebelles syriens. L'assaut final pour déloger Daesh de la ville d'Al-Bab cette semaine a laissé un lourd bilan, au moins 127 civils morts, y compris 38 enfants.
Proche-Orient toujours, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme juge insuffisante et inacceptable la récente condamnation à 18 mois de prison du soldat israélien Alor Azaria pour avoir achevé un assaillant palestinien. Le Haut Commissariat de l'ONU estime qu'il s'agit d'une apparente exécution extrajudiciaire. Cette affaire risque de renforcer la culture de l'impunité, a déclaré aujourd'hui une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.